Salut. Mon nom est Joël Delamarre, je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Gilles Farley se présente souvent comme un des jeunes pasteurs qui sert. Je sais, c'est dur à croire, moi je suis encore plus jeune que Gilles Farley. Plus grand, mais plus jeune. C'est dur à croire aussi, mais quand j'étais petit, j'étais quand même assez grand. J'avais un professeur de physique en quatrième secondaire, un professeur fantastique, le genre de prof qui fait en sorte que tu veux aimer sa matière, tu veux tous devenir des physiciens. Boris, c'était un grand farceur, un peu un pince sans rire, un homme dans un corps de professeur quand même assez exigeant, mais qui aimait ça nous jouer des tours. Pendant qu'on écrivait nos examens, en suant des gouttes de sang, Boris, il allait à l'arrière de la classe, il y avait le laboratoire avec les éviers, puis là, il aimait ça, ouvrir la champlure. Puis là, il disait, « Vous avez 60 minutes pour faire l'examen. Mon examen dure à peu près 60 minutes. J'ouvre la champlure pour vous donner envie d'aller faire pipi. Je vous préviens, si vous sortez pour aller aux salles de bain, vous n'aurez pas le temps de finir mon examen. » Une autre affaire qu'il aimait faire, ça, il faisait souvent, il se promenait dans les allées pendant qu'on suait des grumeaux de sang à répondre à l'examen. Puis il se penchait au-dessus de notre épaule, puis on pouvait sentir sa tête à regarder ce qu'on écrivait. Puis là, on l'entend faire. Puis là, il continuait à marcher. Puis là, on était vraiment incertain de notre coup. J'étais sûr de ma réponse. J'ai-tu manqué mon coup? Je refais mes calculs, voir. Mais non, c'est les bons. Mais pourquoi? Il est-tu en train de me tirer la pipe? Il est-tu en train de me jouer un tour? Faire un examen pour Boris Plante, c'était un exercice de guerre psychologique à chaque fois. À chaque fois, tu sortais de son examen, tu étais sûr que tu avais coulé ta vie. Puis lui, il nous regardait avec un sourire. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire d'une femme qui souffre, qui est rejetée par ses contemporains. À ce moment-là de sa vie, elle a, elle aussi, l'impression que Dieu est au-dessus de son épaule puis qu'il la regarde de même en faisant « Ma grande, celle-là, tu l'as échappée. » Elle se sent jugée par Dieu comme nous, comme on se sentait jugé par Boris Plante. Il fait chaud, le climat est aride, elle est seule, elle a soif. Quand ça va mal. C'est là qu'elle va faire une rencontre improbable. Un homme qui est là, qui se repose sur le bord du puits, qui va commencer à lui parler. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, verset 3. Jean, chapitre 4, verset 3. Mais avant de lire, on va prier. Père éternel, quelle joie de pouvoir lire ta parole. Quelle joie de constater que tu as révélé plusieurs facettes de ta personnalité à travers des histoires bibliques, des poèmes, à travers des trames historiques. À travers cette histoire qu'on va lire ce matin. Que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs, enseigne-nous, Seigneur, par tes paroles. Amen. Jean, chapitre 4, verset 3, dit « Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. » Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi, qui es un juif, tu me demandes à moi, à boire, une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Si vous lisez dans votre Bible, je vous invite à garder un doigt dans le passage. Si vous lisez sur votre téléphone, je vous invite à le fermer parce que vous allez épuiser votre batterie. On va revenir au passage plus tard. Notre histoire se passe il y a 2000 ans. Jésus quitte la Judée pour se rendre en Galilée en passant par la Samarie. Alors, si vous vous imaginez un peu la région en forme de banane, je vais vous faire une map digitale avec mes doigts. La Judée, c'est en bas, la Galilée, c'est en haut. Dans le milieu, il y a la Samarie. Ça, c'est un voyage d'environ 112 km à faire à pied. 112 km, c'est un peu comme partir d'ici en suivant la 50 jusqu'à la ville de La Chute, en direction de Montréal. Sauf qu'il n'y a pas d'autoroute de tracé pour vous. C'est un chemin qui est quand même difficile dans un climat qui est quand même relativement aride. Malgré ce long chemin-là, à l'époque de Jésus, les Juifs préféraient souvent éviter la Samarie. Pour éviter la Samarie, il passait soit à l'est, en suivant le Jourdain, ou soit en l'ouest, en suivant la mer Méditerranée, pour ne pas passer en Samarie. Ça, c'est un peu comme si vous décidiez d'aller à la ville de Québec en évitant Montréal parce que vous n'aimez pas le trafic, puis vous prenez tous les petits chemins de campagne pour vous rendre. Ce détour-là pouvait rajouter de 2 à 3 jours de marche à leur voyage. Mais pourquoi les Juifs se cassaient le pompon à ce point-là à ne pas passer par la Samarie? Pour vous faire une histoire assez longue quand même, en quelques phrases assez courtes, parce qu'on n'a pas toute la matinée à passer là-dessus, en 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien envahit Israël, envahit les tribus du Nord, dont la Samarie fait partie. Les Assyriens vont prendre les habitants, vont les déporter. Puis pendant la déportation, les Assyriens vont abandonner progressivement Dieu, vont s'attacher à d'autres dieux, vont se mélanger avec d'autres cultures. Lorsque les Samaritains reviennent dans leur terre après la déportation, ils apportent avec eux toutes ces cultures-là. Du point de vue des Juifs, ils ont trahi la cause, ils ont trahi la foi. En 586 avant Jésus-Christ, la Judée qui est en bas, les Juifs se font également envahir par l'Empire babylonien. L'Empire babylonien vient, va apporter tous les Juifs, mais les Juifs ne feront pas comme les Samaritains, ils vont rester attachés à Dieu, ils vont refuser de se mélanger, ils vont rester attachés à leurs coutumes. Si bien que lorsqu'ils reviennent en Judée, après, ils ont gardé pour eux le feu sacré. Dieu est avec eux. Donc évidemment, quand tu es Juif, tu regardes un Samaritain et tu dis, tu es un faible, tu es un païen, et puis ça ne vaut pas la peine d'aller te voir, tu es un impur. Mais les Samaritains trouvent eux autres aussi qui sont des enfants de Dieu. Après tout, l'histoire qui se passe ici, le puits de Jacob, qui est juste ici, c'est le puits de Jacob. Jacob, là, c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse dans le buisson ardent, lorsque, dans le livre d'Exode, Dieu parle à Moïse directement à travers un buisson. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de ce Jacob-là qu'on parle. Ce puits-là, c'est Jacob qui l'a creusé. Un petit peu plus loin, si vous êtes au puits, vous pouvez voir là où on a enterré les ossements de Joseph. À la sortie de l'Égypte, dans le livre de l'Exode, les ossements de Joseph ont été apportés, enterrés sur ce même terrain-là. Cette place ici est quand même assez sacrée. Les Samaritains se considèrent fils de Jacob, un homme important. En 400 avant Jésus-Christ, les Samaritains décident que la zone est importante. Sur les monts Gérasim, qu'on peut aussi voir à partir d'où ce qu'on est au puits, un petit peu là-bas à l'horizon, ils ont bâti un temple où on va adorer leur version du Dieu. En fait, ils se sont un peu créé une religion. Les Samaritains croient généralement aux 5 premiers livres de la Bible, de la Genèse à Deutéronome. Après ça, tout le reste trouve ça pas trop important. Puis, ils se bâtissent un temple, ce qui est évidemment un affront pour les Juifs qui sont à Jérusalem, qui, eux, ont le vrai temple, là où Dieu habite. Le temple que Salomon a bâti, qui a été détruit, qui ont rebâti, puis qui est là en ce moment. C'est dans ce climat-là un peu tendu que Jésus arrive sur le bord d'un puits pour demander à une femme à boire. Les disciples sont au village pour aller s'approvisionner. La femme est là, descend vers le puits. Jésus est au gros soleil, c'est midi quand même, il fait chaud, puis il demande à la femme de moi à boire. Pour nous, il n'y a rien de vraiment spécial. Jésus a soif, la femme a une cruche. « Donne-moi à boire, on passe au chapitre suivant. » Mais pour les gens de l'époque, il vient de se passer une petite explosion. Et Jean, dans le passage qu'on vient de lire, prend bien soin de nous le mentionner. On peut le lire dans la réponse de la femme. « Comment? Toi qui es un Juif, tu parles à moi, une femme samaritaine, t'es-tu fou? » On peut lire la surprise dans la réponse de la femme, puis en connaissant un peu l'histoire, on peut aussi lire un peu de dédain. En règle générale, chez les Juifs, il était recommandé de minimiser les interactions avec les autres femmes pour éviter les tentations puis éviter les oui-dire également. Certains rabbins allaient même jusqu'à dire, alors pas tous les rabbins, mais certains rabbins allaient même jusqu'à dire qu'il fallait éviter autant de possible de parler à sa propre femme. Parce que parler à sa femme, c'était au mieux une perte de temps et au pire, une distraction inutile qui t'écartait de la parole de Dieu. Alors, mesdames, je le vois dans vos yeux, je vois le sang bouillir. Je vois les coups de coude partir dans les côtes des maris, puis j'entends vos pensées qui disent, « Mon homme, t'es bien mieux de jamais me dire que me parler sur une perte de temps qui t'écarte de la parole de Dieu parce que tu vas dormir sur le couch pour les 3 prochains mois. » Puis je me permets de vous rassurer, Jésus va passer à travers ces tabous sociaux-là comme un couteau dans du beurre mou. En fait, il va non seulement adresser la parole à la femme samaritaine, mais comme on va le voir dans l'histoire, il va faire resplendir sa gloire dans cette région-là de la Samarie, longtemps après sa mort et sa résurrection. Cette femme-là occupe une place importante dans le plan de Jésus. Mais si on revient dans le contexte de notre histoire, Jésus vient de faire le grand chelem du tabou social. Premièrement, il a parlé à un Samaritain. Deuxièmement, il a parlé à une Samaritaine, une femme. Et troisièmement, il vient de lui demander à boire. Les Juifs croyaient que les Samaritains étaient tellement impurs que tout ce qu'ils touchaient était impur par osmose. Alors, évidemment, les Juifs refusaient de manger la bouffe qui était préparée par des Samaritains parce que impuretés, bactéries, on ne sait pas trop. Mais quand tu es pogné en Samarie puis que tu voyages, puis ça prend, mettons, 3 jours, des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu manges. Alors, quand c'était le temps de manger, les Juifs toléraient généralement de manger de la nourriture sèche parce qu'ils considéraient que ça prenait plus de temps aux Samaritains à transférer les impuretés de la nourriture sèche que de la nourriture mouillée. Bon, on prend nos coutumes où ce qu'on peut. Fait que vous pouvez quand même vous imaginer que pendant ce temps-là, les disciples sont au village en train de magasiner des noix, des graines de tournesol. Ce soir, ils vont pas manger de steak, ça je peux vous le garantir, parce qu'ils veulent rester purs. Puis pendant ce temps-là, on a Jésus sur le bord du puits, le Fils de Dieu, certainement le plus pur de la gang, qui va demander à une femme qui s'approche de boire de l'eau dans sa cruche, à elle. De l'eau, c'est pas sèche. Puis nous, on trouve ça drôle, puis on trouve ça un peu incroyable parce que c'est pas notre culture. Mais nous aussi, on a nos petits tabous. On a des petits tabous comiques, on a des petits tabous qui sont moins comiques un peu. Avez-vous entendu parler d'André? André prend pour les sénateurs d'Ottawa. Un Québécois qui prend pour les sénateurs d'Ottawa. Non, moi. T'es un Québécois, tu prends pour les Canadiens de Montréal ou t'écoutes pas le hockey, c'est pas mal tes deux choix. Sinon, t'es un traître à la nation. Il y en a des comiques, il y en a des moins comiques des fois. T'as-tu vu le gars qui vient de rentrer à l'église, marcher dans l'allée? Il avait des tatous qui partaient du poignet jusqu'à l'épaule. Je te gage qu'il y avait même des tatous dans le dos, peut-être même ailleurs. Ça n'a pas d'allure. Tacher le corps avec des dessins de même quand le Saint-Esprit vit dans toi. Qu'est-ce que ça dit de son témoignage? As-tu entendu parler de Sonia? Elle s'est mise à fumer. Eh oui, encore esclave de la cigarette. Ça, soit tu t'attaches à Dieu ou tu t'attaches à sa cigarette, là, ça, comme, c'est inacceptable. Avez-vous entendu parler d'Éric? Éric vient de faire une dépression. Ah, c'est sûr, il travaillait, tu sais, t'as tout le temps à sa job. C'est ça, quand t'es à l'argent, tu travailles trop, tu fais une dépression. Il aurait été mieux de mettre Dieu en premier dans sa vie. Dans les faits, j'aime ça me faire croire que je suis comme Jésus sur le bord du puits puis que j'accueille les gens comme ils sont, peu importe d'où ils viennent. Mais pour être vraiment franc avec vous, je suis plus comme la femme samaritaine qui descend vers le puits. Qui a tendance à accoster les gens un peu comme elle l'a fait avec Jésus, selon mes propres barrières, selon mes propres tabous sociaux. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, même fatigué sur le bord d'un puits, il a soif. Quand il te voit arriver, il n'y a aucune situation qui va faire en sorte qu'il va dire, « Ouais, celle-là, je ne parlerai pas, il est rendu trop loin. Les tatous, ce n'est pas cool. » Jésus va toujours nous adresser la parole en premier. Et si Jésus s'approche de nous, alors qu'on n'a rien fait pour mériter cela, comment donc répondre à Jésus? Je vous invite à retourner dans votre Bible au verset 10 pour avoir la suite de l'échange, donc Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » À ce moment-ci, vient de se passer quelque chose de phénoménal. Jésus répond en disant, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu. » Jean, dans son évangile, prend bien soin de mentionner que Jésus, le Fils de Dieu, qui offre le salut aux Juifs, l'offre également aux étrangers, puis même aux Samaritains. Mais la femme n'a pas tout à fait encore saisi cette nuance-là. Évidemment, je ne peux pas la blâmer. Moi aussi, en plein soleil, à côté d'un puits, j'ai soif. Si tu me parles d'eau qui ne donnera plus jamais soif, je suis bien intéressé quand même un peu. Je prends tout un peu au premier degré. En plus, l'homme qui est en train de me parler, il est en train de me donner l'idée qu'il va me donner à boire. Mais c'est moi qui ai la cruche. Le puits de Jacob, là, c'est 33 mètres de profond, 100 pieds. Ça prend de l'équipement pour aller chercher de l'eau. Jésus, il n'y a pas d'équipement. De quoi tu parles? Tu vas me donner à boire. Es-tu plus grand que Jacob? Si les Juifs lisent ce passage-là, ils vont reconnaître ce que Jésus est en train de faire. Jésus prend une image humaine pour traduire une réalité spirituelle. Donc, en parlant d'eau courante, abondante, le puits de Jacob était comme sur une veine d'eau, c'est tout le temps alimenté en eau fraîche. Le Juif aurait compris que Jésus fait allusion à la vie éternelle, une réalité spirituelle. Dans plusieurs livres prophétiques, comme dans le livre d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, c'est une image qui revient souvent, les sources qui jaillissent pour parler de la providence de Dieu. Mais pour la femme samaritaine, toutes ces nuances-là sont un petit peu perdues. Encore, elle croit aux 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, les livres prophétiques, ça ne fait pas trop partie de son histoire. Es-tu plus grand, toi, que Jacob? Dans les faits, Jésus va prendre cette question-là, puis il va offrir une réponse directe. Et dans les faits, Jésus est effectivement plus grand que Jacob. Jésus offre une source spirituelle intarissable. Si tu en bois, ton âme n'aura plus jamais soif pour les millénaires à venir. Mais si vous vous mettez dans les souliers de la femme, cette réponse-là ne fait pas trop de sens. Elle était venue pour remplir sa cruche, puis là, elle se ramasse à parler avec un étranger juif d'eau qui ne donne plus jamais soif. Il y a des sortes de répondre, écoute, donne-moi-en ton Gatorade qui ne donne plus jamais soif, comme ça au moins j'aurais plus besoin de venir ici. Puis on peut lire quand même pas mal de défis là-dedans. En gros, elle ne croit pas trop, mais si ça pouvait marcher, bien tant mieux, j'aurais plus besoin de venir ici. Puis pour être franc, je m'identifie à cette réaction-là. Moi aussi, quand j'ai des problèmes précis, je vais avoir des solutions précises que je vais dicter à Dieu. J'ai pas assez de cash, j'aime pas ma job, j'aime pas ma bédaine. Dieu, si c'est ta volonté, mais c'est ta volonté parce que je te le dis, donne-moi plus de cash, j'aimerais avoir une meilleure job puis un six-pack. On voit nos problèmes, nos désirs comme des choses détachées dans notre vie, mais Dieu regarde notre vie sur le plan de l'éternité, de quand on est né jusque dans l'éternité. Et Dieu veut vraiment transformer notre cœur, pas seulement me donner un six-pack, et pour de vrai, avoir plus de cash. Avoir une meilleure job puis avoir un six-pack, ça ne me rapproche pas vraiment de Dieu, ça ne transforme pas mon cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je devienne une source qui va jaillir jusque dans l'éternité? Dans l'histoire qui nous concerne, une femme samaritaine se demande comment ça marche de l'eau magique qui fait que tu n'auras plus jamais soif. Jésus utilise nos concepts humains pour représenter une réalité spirituelle. Et si on revient dans la Bible, la femme demande « Donne-moi-en ton eau magique » et Jésus répond au verset 16 « Va appeler ton mari et reviens ici. » J'ai pas de mari. Jésus dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Ouch. La femme a décidé de ne pas mentir à Jésus, mais elle a décidé de ne pas dire toute la vérité non plus. Elle a gardé un voile pudique sur sa vérité, sur sa réalité maritale. Remarquez comment Jésus répond. Jésus va souligner la vérité, tu as bien fait de dire. Il va souligner le péché, tu vis en adultère. Puis il ne va pas poser de jugement. Mais le voile vient de tomber. On peut sentir qu'on vient de passer en deuxième vitesse. Imaginez comment on se sent quand que deux peuples, les Juifs et les Samaritains, s'entendent sur à peu près rien depuis 700 ans, mais que les deux s'entendent pour dire que l'adultère est un péché grave. Imaginez comment on se sent quand que deux peuples ennemis s'entendent pour dire que tu es une bonne à rien. Je vais prendre un pas de recul pour vous conter l'histoire probable de la femme samaritaine. Comme d'autres jeunes filles de sa communauté, quand elle est jeune adolescente, elle rêve de se marier. Elle rêve d'avoir un prince charmant qui va prendre soin d'elle, lui donner un foyer, lui donner une famille, des enfants, puis si Dieu le veut, même des petits-enfants. À l'époque de la Samarie, la femme choisit le prétendant avec la famille. C'est un travail communautaire, mais la femme a son mot à dire, ce qui veut dire que son premier mariage, cet homme-là, elle l'a choisi. Puis un jour, c'est le grand jour, c'est le temps du mariage, puis enfin, j'ai mon homme, puis c'est compliqué notre vie quand même avec les Romains, l'envahisseur, les temples, les machins, mais au moins, ma vie à moi va être simple. J'ai mon mari qui va prendre soin de moi, sauf que son premier mariage est un échec. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est pas grave, on se retrousse les manches. Avec l'expérience du premier, on va faire mieux avec le deuxième. Choisir un deuxième mari. Elle se marie encore, encore un échec. Troisième mariage, troisième échec. Quatrième mariage, quatrième échec. Cinquième mariage, cinquième échec. Oui, il n'y aura pas de sixième mariage. Elle décide de vivre en concubinage avec un homme et refuse de s'engager. Dans ces temps-là, il y avait trois grandes causes pour demander le divorce. C'était quand même assez rare qu'il y avait des divorces, mais trois causes. C'était des fois accepté, mais souvent accepté pour des causes d'adultère ou de stérilité, et parfois accepté pour cause d'incompatibilité. Il aurait été surprenant que ces premiers mariages soient des échecs pour cause d'adultère parce que le remariage aurait été difficile. Même chose pour la stérilité, ça veut dire que potentiellement les causes des échecs de ces mariages étaient incompatibilité. Je veux pas de toi. Cinq fois. Puis elle refuse de s'engager chez elle, puis après un sixième homme, puis en faisant ça, elle se met à dos sa propre communauté, est rejetée peut-être même par sa famille. Ça explique pourquoi elle vient le midi chercher de l'eau quand il n'y a personne au gros soleil à suer sa vie pour rapporter son eau. Parce que quand elle vient le matin puis quand elle vient le soir, elle est avec les autres femmes du village puis elle se fait sans cesse répéter comment mauvaise qu'elle est. Elle revit sans cesse son rejet. No more. Je vais faire une pause ici pour souligner la grâce, la patience, l'amour incroyable que manifeste Jésus envers cette femme. Jésus, qui connaît tout ça, va passer à travers les barrières sociales. Il va éclater nos tabous. Il va même mettre en suspens l'exécution de sa propre loi pour venir parler au cœur de la femme et venir lui offrir de l'eau qui fait en sorte qu'elle va devenir une source qui va rejaillir jusque dans l'éternité. Plutôt que de la juger, il veut transformer son cœur. Jésus avait compris au début de l'échange que la soif physique de la femme, ce n'était pas son plus gros problème, puis la femme commençait à comprendre ça aussi. Ce même Jésus, il s'approche de nous dans notre douleur. Il nous tend la main dans notre détresse. Mon ami, en descendant vers le puits avec tes fardeaux, abandonne ta cruche pour te brancher directement à l'eau courante et Jésus-Christ. À celui qui demande, le Sauveur éternel sauve éternellement. Terminons ensemble la lecture de ce passage. Jean chapitre 4, verset 19. La femme répond, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » On peut voir qu'il n'y a plus de sarcasme dans les questions de la femme, mais il y a quand même encore des bonnes questions. Sa garde est tombée, mais il y a certaines affaires qui ne fonctionnent pas. Certains commentaires bibliques vont dire qu'avec son péché mis au grand jour, son adultère, la femme va décider de balancer à Jésus une question théologique pour enlever les projecteurs de sa situation tellement elle souffre. C'est bien plus facile de parler de théologie systématique que de péché dans ma vie. Mais d'autres commentaires vont dire, et je suis assez d'accord avec cette deuxième série de commentaires, qu'on est en face d'une femme qui est intelligente, perspicace, qui connaît les coutumes et les religions de son temps, et qui est en train de se poser une question légitime. Manifestement, l'homme en face d'elle est quelqu'un de spécial envoyé par Dieu. Manifestement, c'est un prophète avec un petit P, peut-être même le prophète avec un grand P. Mais c'est un juif, puis on est des Samaritains. Puis les Juifs, ils disent que le vrai Dieu est à Jérusalem, au temple. Puis nous, les Samaritains, on dit qu'il faut aller adorer sur Gérasim, qui est en haut, à l'ouest. Il est où Dieu? Comment ça marche, la patente? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jésus va prendre la balle au bond encore une fois pour répondre non seulement à l'impasse dans laquelle les Juifs et les Samaritains se sont placés. Jésus, c'est un peu comme la roche dans l'engrenage qui fait sauter les arrangements religieux. Mais il va prendre l'occasion pour nous enseigner quelque chose de fondamental. Vois-tu, Dieu n'est pas intéressé par le lieu le plus saint pour le louer. Dieu n'est pas intéressé par nos méthodes, ce qu'on met de l'avant, nos checklists d'affaires qu'on fait, nos checklists d'affaires qu'on ne fait pas, pour essayer de se rapprocher au niveau où on peut louer Dieu. Dieu est intéressé par avoir un cœur transformé en esprit et en vérité. Ce que Jésus est en train de dire dans ce passage, c'est qu'il s'offre lui-même pour transformer nos cœurs et notre adoration, à travers nos souffrances et nos péchés, pour nous rendre, nous, de vrais adorateurs en esprit et en vérité. La seule façon de se connecter à Dieu, c'est pas la place où ce que t'es, c'est ton cœur transformé par Jésus. À la fin du passage, la femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. » Et Jésus répond, « Je le suis. » En français, on a rajouté l'article « le » pour que la phrase coule un petit peu mieux, « Je le suis ». Mais dans les textes originaux, la réponse de Jésus est « Je suis ». C'est le même « Je suis » qui s'est présenté à Moïse dans l'Exode, dans le buisson ardent, à la fin de l'échange où ce que Moïse a compris qu'il parlait à Dieu. Il dit mais comment est-ce qu'on doit t'appeler? » Puis Dieu répond « Je suis celui qui est. Je suis. » Jésus a utilisé le peu de connaissances théologiques que la femme avait dans le livre d'Exode pour s'identifier à elle comme étant le Fils de Dieu. Mais vous allez me dire, Joël, qu'est-ce que ça fait dans les faits? Qu'est-ce que ça mange en hiver, adoré, en esprit et en vérité? Ça change quoi à ma vie? Alors, j'aimerais vous dire que ça rend parfait. Ça élimine tous les problèmes de vos vies. Puis j'aurais tort, parce que c'est pas tout ça que la Bible dit. Ce que la Bible dit, par contre, c'est qu'un cœur transformé en Christ, ça vit éternellement. Un cœur transformé en Christ, ça ajoute de l'eau au moulin pour passer à travers toutes les épreuves de ta vie en sachant qu'il y a un Dieu qui t'aime passionnément, qui est mort sur une croix, ressuscité au bout de 3 jours pour ton salut. Mon ami, pour adorer en esprit et en vérité, abandonne tes fardeaux en descendant au puits pour te brancher directement à l'eau courante de Jésus. Quand j'étais petit, j'étais quand même assez grand. Je faisais partie d'une troupe de théâtre et de mime qui s'appelait Alléluia. La troupe Alléluia venait de Hall, avant les fusions municipales, c'est un jeu de mots. Puis ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on présentait l'Évangile dans différents lieux, des places publiques, par des chants et des mimes. Pour subventionner nos activités, un des chrétiens de notre église était un traiteur, il y avait un service de traiteur, puis il acceptait qu'on aille servir ses grands banquets. Puis au lieu de nous payer, nous, les jeunes, pour notre service, il donnait l'argent à la troupe Alléluia, ce qui nous permettait de financer nos voyages missionnaires et nos activités. Une belle façon, somme toute, de financer nos choses. Un soir, on vient finir de servir un grand banquet. 150 assiettes peut-être plus, en fait. C'était gros pour nous. Il est samedi soir, il est rendu presque minuit. On est fatigué, puis on s'affaire à ranger le matériel. Puis on utilise l'auto d'un des responsables de la troupe, on va l'appeler Samuel, pour remettre le matériel de cuisson, puis on veut juste s'en aller chez nous. Puis, on vérifie pas si le matériel était bien lavé. On fait juste prendre les affaires, puis mettre ça dans la valise. Puis quand il n'y a plus de place dans la valise, on ouvre la porte à l'arrière, puis on prend les plaques de cuisson sans vérifier si on avait bien enlevé toute la graisse des plaques de cuisson, puis on met tout ça, pile-mile, bang, sur la banquette arrière de la voiture qui est inclinée comme ça. La graisse se met à couler dans le siège de l'auto. Il est peut-être rendu 1h30 du matin par le temps qu'on arrive à la shop pour tout dépaqueter ça. Je me souviens d'avoir pris les plaques de cuisson. J'ai senti le gluant de la graisse frotter sur mes jointures. Puis je regarde le siège qui est tout taché, puis là, je mets ma main, puis je pèse sur le coussin, puis le gras sort entre mes doigts, c'est juteux. Tout son char sent, je sens comme l'intérieur de chez Bob Patate. Je suis fâché. Fâché, je vous en parle aujourd'hui, je suis encore un peu frustré de la situation, ça fait comme 25 ans de ça. Fâché, comment est-ce que Dieu a pu permettre une affaire de même? Je me souviens plus de qui a mis les plaques. Peut-être c'était moi, peut-être c'était un autre. À ce moment-là, c'était pas tant important, mais comment Dieu a pu permettre que ça, ça arrive à ce gars-là? Samuel, il travaille lundi matin, il a besoin de son char, il fait pas ça à temps plein. Je veux dire, lui, il fait ça pour rendre service à Dieu, venir servir des repas un samedi soir au lieu d'être avec sa femme, écouter des émissions. Pourquoi Dieu permet une affaire de même? Fâché! Je me retourne vers Samuel, le propriétaire du char, qui me regarde, puis je vois dans ses yeux la paix, l'amour, puis sans skipper un beat. J'ai essayé de trouver la traduction pour ça, mais on va dire du premier coup. Il regarde la situation, puis il dit, « Ah, ça, c'est plate, hein? » Écoute, aide-moi, Joël, à ramasser le reste des affaires. On va fermer ça. Demain, on figurera qu'est-ce qu'on fait. Il est tard. Dieu va s'arranger avec ça. Ça, c'est plate! Écoute, moi, je suis pas matérialiste. Tant que tu touches pas à mes affaires. Mais si tu touches à mes affaires, faut pas que tu touches à mon char. Fais attention en tournant les coins de rue pour pas frotter les rems sur le bord de la curb. Fais attention les stationnements. Stationne-toi loin, je veux pas avoir des pocs sur mon char. Quand je conduis, j'essaye d'éviter les stone chips qui pourraient arriver en avant là, pour poquer mon pare-chocs. De la graisse sur ma banquette arrière, c'est pas plate, c'est une catastrophe. Puis Samuel en arrière, lui, ça passe comme dans du beurre. Ça, mon ami, c'est un résultat probant d'un cœur transformé par Christ qui rejaillit jusqu'en dans l'éternité. Je vous le dis, à ce jour ici, ça fait des décennies de ça. À toutes les fois que la moutarde me monte au nez, okay? Que les fils se touchent, que je suis pogné dans un stationnement de Costco avec du monde qui ne savent pas comment se stationner, que je suis dans la voie de gauche à essayer de dépasser puis que le gars en face de moi roule à 105 pour dépasser le gars qui roule à 103, tasse-toi! Je me souviens, même dans des situations plus graves que ça, de Samuel qui a dit, ça c'est plate, Dieu va s'occuper de ça plus tard. Un cœur transformé. Samuel a dû changer de char, tellement c'était taché, ça se lavait pas. Puis il parlait de cette situation-là en riant plus tard. Je suis pas encore rendu à ce niveau-là, je vous rassure. Jésus et la femme samaritaine, c'est pas juste l'histoire d'une femme intelligente, perspicace, blessée par la vie, possiblement rejetée par ses pairs. C'est aussi l'histoire d'un sauveur aimant, compréhensif, attentif, généreux, qui a revêtu le cœur d'un homme pour s'approcher de notre condition humaine et venir nous offrir une transformation permanente, afin que toi, comme Samuel et moi, on puisse être transformés dans notre vie jusqu'à l'éternité. En 1953, un petit bonhomme portoricain frisé est abandonné dans un orphelinat de Trois-Rivières. Il est le résultat d'une aventure entre joueur de baseball professionnel portoricain et d'une femme de ménage. Au début des années 50, les enfants nés hors mariage, c'est assez mal vu au Québec, alors ses parents ne veulent rien savoir, ils l'abandonnent dans l'orphelinat. Pendant les 13 premiers mois de sa vie, notre petit bonhomme va passer sa vie à broyer chaque heure qu'il est réveillé. Les seuls temps où il ne pleure pas, c'est quand il dort, puis quand il est dans les mains de deux jeunes filles qui viennent donner du bénévolat en temps partiel à l'orphelinat. De fil en aiguille, les filles demandent à leurs parents si c'est correct d'amener le petit bonhomme portoricain à la maison pour lui permettre d'avoir un petit peu une vie de famille pendant les fins de semaine. Les parents acceptent. Et de fil en aiguille encore, les parents acceptent d'adopter le petit orphelin. Notre petit bonhomme frisé a trouvé une famille. Il est adopté et la stabilité vient de s'installer. Le Québec des années 50, c'est pas nécessairement un Québec raciste, mais c'est pas un Québec inclusif non plus. En grandissant, il a le teint basané, il a les cheveux frisés, il se fait appeler le petit noir. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il vit quand même beaucoup de rejet, mais au moins sa famille est là pour prendre soin de lui. À l'âge de 16 ans, ses parents adoptifs se séparent. Sa fragile stabilité s'envole. Il va dire plus tard qu'il vit ça comme un deuxième rejet, un échec total dans sa vie. Sans stabilité, il quitte l'école, commence à faire des jobs ici et là. Il se met aussi à fumer, notre jeune homme portoricain. Il va dire plus tard que les moments qu'il passait avec sa cigarette, dans ces moments-là, c'était les moments qu'il passait avec son ami. Loin de tout le monde, il n'y avait pas à vivre les rejets de tout le monde. Il était assis, il fumait, il se sentait bien. À l'âge de 19 ans, il décide de vivre l'aventure. Dans les années 70, l'aventure, l'Eldorado au Canada, c'était d'aller à Vancouver, planter des arbres, devenir millionnaire. C'est un plan facile. Avec le peu d'argent qu'il a, il part sur le pouce, puis il se met à traverser les provinces du Canada, de ride on ride, en zigzag. Les places où il n'y a pas de place pour faire du pouce parce qu'il n'y a pas assez de monde qui habite là encore, il se ramasse à être passager clandestin sur des trains de marchandises, des fois en couchant à la Belle Étoile. Une histoire assez rocambolesque qui mériterait probablement d'être écrite dans un film. Après plusieurs périls, il arrive à Vancouver, il s'achète une tente, il s'en va en montagne pour commencer à planter des arbres. Puis là, il se rend compte d'une affaire. Planter des arbres dans une montagne, c'est difficile. Tu es payé à l'arbre planté. Pour faire de l'argent, il faut que tu plantes beaucoup d'arbres. Puis t'es dans le bois avec une tente au milieu des bébites, avec les ours qui te courent après. Puis à un moment donné, t'as l'impression que les seuls dans la gang qui font une bonne affaire, c'est les moustiques qui te bouffent jusqu'à l'os. Puis le peu d'argent qu'il réussit à mettre de côté, il est pogné à le dépenser pendant ses semaines de vacances quand il est à Vancouver, parce que ça lui prend une chambre pour coucher. Ça lui prend, il faut qu'il achète de la bouffe. Rapidement, le plan est un échec. Il se ramasse pratiquement sans abri à dormir sur des divans d'amis des fois, parfois à dormir dehors. Tout ce qui reste, un vieux bicycle et son paquet de cigarettes. Un jour, il est sur son vélo, à pédaler, sur une route de campagne, en revenant de quelque part, en allant nulle part, puis il pleure. Puis il se met à prier. Puis notre jeune homme portoricain, c'est un catholique, comme tous les catholiques au Québec, puis il croit en Dieu à peu près comme tous les catholiques au Québec à l'époque des années 70, pas trop. Mais là, il est vraiment au bout du rouleau. Là, il a vraiment besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Puis il se souvient de sa prière en braille, hein? Puis il dit, « Dieu, ça va vraiment pas bien. Je sais pas où aller. Si t'es là, montre-moi qu'au moins toi, t'es là. » Puis là, il se lève la tête, puis il fait beau, puis c'est un beau soleil, puis il voit drette comme je te vois là un éclair, « Catar! » dans le ciel. Il se dit, « Ah, ça, c'est bizarre. J'ai jamais vu ça, un éclair, en plein jour, quand il n'y a pas de nuages. » Puis il se met à pédaler. « Dieu, si t'es là, donne-moi un signe. » Il va dire plus tard, en riant, que c'était peut-être justement Dieu qui donnait précisément le signe à sa prière, mais que son cœur était encore pas prêt à le recevoir. Le temps passe encore un peu. Sans abri à Vancouver, il se fait recueillir par une mission évangélique qui prend soin des sans-abri. En gros, le deal, c'est qu'on te donne un repas chaud, une place où coucher, au chaud et en sécurité, puis une Bible, puis on te demande de lire une page de la Bible par jour. Si tu ne sais pas où commencer, commence dans l'Évangile de Jean, là où on est ce matin. Commence à lire Jean 1. Pendant la journée, les évangélistes vont dans la rue pour annoncer l'Évangile, puis il est invité à se joindre à eux. Le lunch est payé, fait rien à perdre. Il trimballe des boîtes, il aide avec les traités. Puis pendant des semaines, il va entendre le message de l'Évangile se faire prêcher en lisant les pages de sa Bible, une par jour. Un jour, il se met à pleurer sa vie. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il vient de réaliser quelque chose. Il vient de réaliser qui est Jésus et qu'est-ce qui est fait pour lui. Il braille, il shake, il va s'enfermer dans un cabinet de toilette, il barre la porte, il se met à genoux à côté du bol. Puis là, il accepte Jésus. Tu ne pensais pas que j'étais pour dire ça, hein? Il accepte Jésus sur le spot-là. Jésus est venu rescaper notre jeune homme portoricain. Comme la femme samaritaine, il venait de laisser là sa cruche pour se brancher sur la parole de Dieu. Et Jésus avait transformé sa soif d'être aimé et accepté à une source intarissable dans l'éternité. Jésus était devenu son sauveur. Puis si la femme samaritaine a bu de l'eau vive en parlant à Jésus, le jeune homme portoricain, lui, dévorait littéralement les pages de sa Bible. Il fumait toujours, mais à toutes ses pauses cigarettes, maintenant, il lisait des chapitres entiers de la Bible puis il les remémorait par cœur pour se rappeler les promesses de Dieu. Il avait été adopté par Dieu. Toujours à Vancouver, il va décider de revenir à Ottawa où il peut maintenant partager le message de Jésus dans la rue, un peu selon le modèle qu'il avait connu à Vancouver. Il voulait devenir un missionnaire itinérant, c'était le plus grand désir de son cœur. Mais Dieu avait un plan différent pour lui. De fil en aiguille, il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés. Ils ont eu un petit bonhomme portoricain, presque, mettons, à moitié, avec des cheveux frisés aussi. Et je vous présente mon papa, Clément Delamore. Dieu a fait d'un orphelin rejeté, racisé, né sous l'échec d'une union manquée, vivant d'échec en échec, un père aimant et un enfant de Dieu dévoué. Il a rescapé une situation catastrophique pour la transformer en une histoire fantastique. Est-ce que mon père était parfait? Ma mère et moi, on pense que non. En tout cas, s'il était parfait, il l'a bien caché pendant sa vie. Mais je peux vous dire que je n'ai pas vu beaucoup d'hommes boire la parole de Dieu comme mon père buvait la parole de Dieu, s'approprier les promesses de Dieu au fil de sa vie, à travers les épreuves, à travers la difficulté, même à travers la maladie. J'étais devenu un homme lorsque le cancer a stoppé net la vie de mon papa. En fait, il aurait mieux fait de méditer sa Bible avec un verre d'eau plutôt qu'avec des cigarettes, parce que les cigarettes, ça donne le cancer. En 4 mois, j'ai vu mon père, mon héros, dépérir. Lui qui avait une santé de bœuf, devenir l'ombre de lui-même dans un lit, à ne pas être capable de bouger. Et je suis resté chez moi à attendre. Attendre quoi? Je ne sais pas trop, mais j'étais tétanisé. Je ne savais pas comment réagir avec la maladie, fait que j'ai juste rien fait. Tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain, tu honoreras ton Dieu. En 2 mois, j'avais brisé 3 des commandements de Dieu. Mon père avait commencé sa vie abandonné par ses parents, il la finissait abandonné par son fils unique. Ou du moins, c'est comme ça que je me sentais en route vers l'hôpital, pour le dernier jour de sa vie. Je me sentais en route vers le puits de Jacob. C'est moi qui allais chercher de l'eau avec ma petite cruche, puis un monde de culpabilité sur mes épaules. J'ai eu la chance cette journée-là d'échanger avec mon père. On a échangé peut-être 10 phrases. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un si tu as juste 10 phrases à la fin de sa vie et que tu es honteux comme c'est pas possible? Ben, j'ai rien dit, je suis bon à rien faire. Mais mon père m'a regardé et 2 de ses 10 phrases étaient « Je sais, je t'aime, ça va bien aller, Dieu prend soin de moi. » Mon père avait une confiance indéfectible en Dieu. J'ai réalisé cette journée-là que j'avais mal évalué la grandeur de l'adoption que Dieu avait offerte à mon père. Au milieu de la maladie, au milieu de tous les maux, il y a un mal que mon père ne souffrait absolument pas, et c'était celui d'être abandonné. Jésus a transformé le cœur de la femme samaritaine sur le bord du puits de Jacob. Il a transformé celui d'un petit orphelin portoricain en rébellion à Vancouver. Et le jour du décès de mon père, ce jour-là, il a pris mon fardeau sur mes épaules en apportant mon père dans l'éternité. Mon ami Jésus t'attend sur le bord du puits. Il connaît ta douleur. Il est celui qui fait les premiers pas. Il est celui qui demande à boire, il veut entamer la conversation. Il veut piquer ta curiosité. Il veut s'engager dans une relation avec toi. Si ce matin, c'est la première fois que tu entends parler d'un Jésus sauveur, plutôt que d'un Dieu accusateur qui, comme mon professeur Boris Plante, riait de nous dans les erreurs qu'on faisait, sache que Jésus peut te sauver, Jésus veut te sauver, peu importe ton curriculum vitae, ton statut social, la lourdeur de ton passé. Mon ami, en descendant vers le puits, abandonne ta cruche pour te brancher à l'eau courante. Jésus veut te sauver, il attend juste toi. Et si comme moi, tu es un enfant de Dieu depuis des décennies, puis que tu te surprends à descendre vers le puits avec ta cruche puis un monde de culpabilité sur tes épaules, rappelle-toi de ce sauveur qui un jour te dit, « Joël, donne-moi à boire. » Au milieu de tes souffrances, mon ami, au milieu de tes doutes et de tes manquements, laisse là ta cruche. Rappelle-toi que tu es branché à l'eau courante, Jésus-Christ. Amen.